Ce propos que j'ai intitulé un peu ambitieusement « Dépaysement et déplacement du rêve d'ailleurs au voyage immobile » s'ouvre par une épigraphe bien connue, une phrase de Georges Perec. « On rencontre partout des gens qui ont des montres et très rarement des gens qui ont des boussoles. » C'est tiré bien sûr de « Espèce d'espace » 74. Alors, je vais commencer peut-être par un petit parcours lexicologique, qui n'est pas inintéressant, en tout cas qui m'avait personnellement intéressé. Au motif que Furtière, son célèbre dictionnaire, ignore le terme dépaysement n'est pas chez Furtière, peut-on dire que jusqu'au XVIIe siècle, on ne le connaissait pas. Ce serait aller un peu vite en besogne, car si on ne connaissait pas le mot dépaysement, en tout cas il n'apparaît pas, on connaissait bien le verbe dépayser. Mais on le connaissait non sous sa forme passive ou subjective, c'est-à-dire être ou se sentir dépaysé, puisqu'on le connaissait uniquement sous sa forme active, objective, à savoir dépayser quelqu'un ou quelque chose. On dépayse celui qui est compromis. Exemple donné par Furtière, on dépayse un religieux qui a quelques mauvaises habitudes, en l'envoyant voir ailleurs. On dépayse le provincial ou l'étranger de façon à ce qu'il perde son accent et ses manières, ou bien, bon, dans la langue du palais, alors, toujours actuelle évidemment, on dépayse une affaire afin qu'elle soit confiée à une autre juridiction. Alors, ce qui frappe dans ces définitions, c'est que le dépaysement pris au sens littéral, c'est-à-dire géographique, apparaît non comme l'effet d'une libre volonté, mais comme le moyen de corriger une faute, une anomalie ou quelque monstruosité. 200 ans après, apparaît enfin une entrée dépaysement chez littré, et passé le sens géographique, qui est bien sûr rappelé, le lexicographe propose alors des exemples différents de ceux de Furtière, puisqu'il le montre, le dépaysement se dit volontiers d'une personne qui ne peut retrouver son chemin, ou bien qui aborde un sujet nouveau pour elle. Ce qui fait que quand on regarde tous ces exemples, on s'aperçoit que le dépaysement dans les dictionnaires n'apparaît plus, à partir, disons, de littré, comme une nécessité, se cacher, échapper à la pression du corps social, se débarrasser de ses travers, mais comme une pure épreuve, ne pas retrouver son chemin, ignorer le sujet qu'on doit traiter. Et celui qui ignore le sujet qu'il doit traiter se sent désorienté. Il a perdu l'Orient ou bien le Nord, c'est pareil. Et donc il se sent désemparé. Ce qui confère au dépaysement une coloration volontiers négative, comme le confirme le trésor de la langue française, qui, distinguant bien le sens géographique du sens psychologique, donne comme synonyme de dépaysé le terme déconcerté. Dépaysé, c'est déconcerter quelqu'un en le transportant hors de son cadre habituel. Alors, l'étonnant, c'est qu'une telle présentation ignore en fait, sous-évalue singulièrement, la complexité psychologique et l'ambivalence des affects que le terme peut susciter. Apprendre les dictionnaires de langue à la lettre, on a l'impression qu'habiter un lieu va de soi et que tout arrachement suscite le trouble, au point que les différentes notices associent systématiquement le dépaysement à une perte des repères de l'identité. Il y a là, au fond, un présupposé barétien qui participe d'un imaginaire du sol natal. Or, si le paysan craignait de devoir quitter son cher pays pour s'en aller là-bas, comme on le chantait jadis ou naguère, il en va autrement quand le sujet se sent en porte-à-faux dans le monde. En effet, dès lors que nous avons rompu le pacte au terme duquel le paysage où nous nous inscrivons constitue notre horizon de pensée, la question du dépaysement doit être examinée à nouveau frais. Comme dans le livre des juges, le terme de dépaysement constitue ainsi un shibboleth. En effet, tandis que certains conjurent le risque de désarroi en traversant le monde sans se commettre avec lui, d'autres voient dans le dépaysement la réponse à un mal-être qui les fait se sentir en exil dans leur propre pays, un étrange pays dans leur pays eux-mêmes. Mais peut-être que le malentendu tient à la conjonction dans le même mot du dépaysement comme déplacement et du dépaysement comme sentiment, comme si l'un était la condition de l'autre. Or, au plan psychologique, les plus dépaysants sont souvent les voyages immobiles, lorsque tout à coup le monde nous apparaît dans une autre lumière. Ma première partie s'intitule « Je ne suis pas là où je devrais être ». Alors, je ne suis pas là où je devrais être. Voilà ce que répète depuis au moins le XIXe siècle une bonne part de la modernité. Un terme modernité que j'emploie dans un sens extrêmement flou, délibérément. Par écrit peut s'entendre dans le domaine social. Je ne suis pas fait pour demeurer un simple précepteur, dit Julien Sorel. Dans le domaine temporel, je ne suis pas de ce siècle, dit l'héroïne de La Belle au bois de Philippe Beaussant. mais plus encore au plan existentiel. Relire la vie antérieure de Baudelaire, souvent habité sous de vastes portiques que les soleils couchants teintaient de mille feux, on mesure à quel point le sujet moderne se voue à une forme de conscience malheureuse, pour le dire avec les mots de Hegel. Alors, dans ce dispositif mélancolique, la géographie, réelle ou plus souvent imaginaire, a donc valeur de pharmacon, puisqu'elle est à la fois le mal, sans la géographie, sans l'arrière-plan géographique, je n'aurais pas conscience de l'exil qui est le mien, c'est à la fois le mal et le remède. Mais sans la géographie, je ne pourrais espérer retrouver les vastes portiques sous lesquels j'ai, en principe, habité. Du moins, ce que je me plais à croire. Alors, de ce vrai lieu qui nous échappe, on sait que le nom est Légion. Entre autres, dans les paradisiaques, Pascal Quignard dresse une liste de ces pays rêvés aux antipodes d'une autre, dont les textes attestent l'existence, mais que l'on peine à situer. Il nous a donc fallu en retrouver des substituts, dégradés, îles mystérieuses des mers du Sud, Orient extrême, cités inaccessibles, etc., comme si, à vouloir échapper à un lieu considéré comme inauthentique, on se vouait à poursuivre sans cesse des fantômes. Car il y a peu de chances que l'on n'accède jamais au pays des merveilles, réservé à Alice, ou à Neverland, propre à Peter Pan. En effet, si les mers du Sud et les cités mystérieuses nous séduisent, c'est que le dépaysement relatif du voyage dans l'espace se double ici de ce dépaysement absolu qu'est le voyage dans le temps. Cet ailleurs est toujours un avant, comme l'avait remarqué il y a déjà bien longtemps Montaigne dans un célèbre chapitre des Essais des Coches, comme l'ont répété à satiété bien d'autres après lui. L'aspiration au dépaysement a donc partie liée avec une forme de bovarisme, dès lors que le départ est censé, départ réel ou plus souvent imaginaire, est censé répondre à une souffrance, cette impossibilité à habiter le lieu que le destin nous a assigné. D'où ce double mouvement inlassablement répété qui, dans la plupart des romans, dans le cadre de nombreux romans, conduit le héros à se donner l'illusion du recommencement. Dans le Prière d'insérer de loin l'un de ses premiers romans, Pontalis présente ainsi son ouvrage. Ce récit retrace l'expérience d'un dépaysement. Une ville étrangère en est le lieu, Mimia, des femmes en sont l'instrument, Alix et Angèle. Mais, ajoute-t-il, si le dépaysement est d'abord vécu dans un sentiment de vacance et de légèreté, il vire progressivement au malaise, à la dépossession de soi, à l'exil. Ça se trouve en collection Folio. Alors que le dépaysement était censé arracher le sujet à lui-même, il le confronte finalement à ses limites, ses anciennes blessures que redécouvre le héros de Pontalis. En effet, un dépaysement radical devrait déboucher sur une véritable métamorphose. Or, Laurence d'Arabie n'est jamais devenu un arabe, pas plus que Mairena, dans le règne du malin, un moy. Peut-être que le malentendu et que cette limite tient en fait aux ambiguïtés même du mot dépaysement, qui donne à croire que le sens littéral, géographique, est garant du second, psychologique. Si un déplacement procurait à lui seul un sentiment de dépaysement, s'il suffisait à procurer un sentiment de dépaysement, les deux niveaux de signification seraient à jointure. Mais le paradoxe tient justement à leur disjonction, et la fécondité du terme tient justement à cette disjonction. Car on peut accéder aux confins du monde tout en demeurant identique à soi-même. On peut procéder à une translation, mais une translation qui n'entraîne aucune altération. C'est l'objet de ma deuxième partie, je suis chez moi, même ailleurs. Chez moi, même ailleurs. Alors, du fait que le déplacement désoriente et déconcerte, je reprends des termes du Trésor de la langue française, comme disent les dictionnaires, il constitue, a priori, ou en tout cas, il constitue pour beaucoup, une menace. Ce qui explique les conduites d'évitement propres à ces universalistes qui traversent le monde en toute indifférence. Ce que l'on pourrait appeler, pour être plus clair, le syndrome Phileas Fogg. Phileas Fogg, donc, ce héros insensible au sentiment de dépaysement, comme d'ailleurs à tout sentiment, qui ne connaît du monde que ce que lui en disent les horaires des trains et des paquebots, et qui donc substitue aux troubles du vivant les certitudes de la mathématique. Enfin, bien sûr, il y a le clinamen final, le léger décalage que tout le monde connaît. Au regard de la question qui est nôtre, un tel roman théâtralise à merveille le double jeu ou le double langage de la révolution technicienne et du colonialisme du XIXe siècle, qui tout à la fois célèbre le divers, le voyage, l'exotisme, dont Hartmann vient de parler, mais réduit fondamentalement le multiple à l'un, c'est-à-dire la rationalité occidentale. Phileas Fogg aura donc traversé le monde sans quitter l'Angleterre. Tout comme, pour prendre un exemple littéraire emprunté à la seconde moitié du XXe siècle, le Robinson Crusoé de Michel Tournier, dans toute la première partie de Vendredi ou les Limbes du Pacifique, pardon, qui, passé le moment de sidération qui suit le naufrage, entreprend de voyager à rebours en faisant de l'île administrée une nouvelle Angleterre. Seul sur Speranza, Robinson annule un sentiment de dépaysement en dépaysant l'île, au sens où Furetière entendait le mot, parlait de dépayser un étranger, dépayser un provincial, en effaçant tout ce qui fait sa singularité. Il entreprend de dépayser l'île, c'est-à-dire en lui enlevant toute trace de sa sauvagerie. Comme s'il convenait de rendre le monde monochrome, Vendredi devenu un nègre blanc, et monotone, une île du Pacifique Sud devenue une petite Europe. Le dépaysement est donc devenu problématique, ou il est, pour le dire autrement, devenu une véritable question dès lors que le monde s'est mis à parler une seule langue, la technique, le capitalisme et l'anglais. Mais la remise en cause des terroirs ou des pays, comme on disait, ou comme on dit à nouveau, l'esprit du lieu, c'est-à-dire un imaginaire borné par un paysage, a sans doute des racines plus anciennes. André Gide lisait Bossuet en descendant le Congo, rappelle Roland Barthes dans une page fameuse des mythologies. 60 ans plus tard, le héros de La salle de bain de Jean-Philippe Toussaint lit les pensées de Pascal en anglais, plutôt que de visiter Venise, seule fois où il avait entrepris de sortir de sa salle de bain. Indifférent aux séductions du monde, tous deux, Bossuet, Pascal, en appellent aux classiques. Plus particulièrement, parmi les classiques, ils en appellent à deux auteurs disons, spirituels, entre guillemets. Or, à mon avis, ce n'est pas hasard. En tout cas, si c'est hasard, c'est un hasard bienvenu pour mon propos. Car c'est clairement avec le christianisme que la question du dépaysement s'est trouvée posée, je crois, pour la première fois, de façon centrale et paradoxale. Le christianisme est en effet la seule religion qui procède d'un dépaysement radical. Quitter Jérusalem pour Rome, abandonner l'hébreu pour le latin, oublier les rituels de l'Ancien Testament, circoncision, etc. Le christianisme est la religion qui, en même temps, a inventé l'universalisme, ou qui, de ce fait, a inventé l'universalisme, Saint Paul, bien sûr, annulant du même coup les frontières et les identités particulières. Alors, je peux donner l'impression de m'écarter singulièrement du titre « Le dépaysement » au XXe et XXIe siècle. Cependant, même si, effectivement, bien sûr, on le sait, les dieux se sont tus ou parlent tout de même moins fort qu'ils ne parlaient à une époque, encore que, l'empreinte demeure. Si bien que la modernité occidentale, ou du moins une part de la sensibilité moderne occidentale, apparaît comme l'héritière de cet universalisme premier. La proximité, je crois au fond, est plus grande qu'on ne peut le penser entre les Prométhéens, Robinson Crusoé, et des Augustiniens comme Beckett ou Céline, qui évoluent dans un monde pareillement indifférencié, puisque pour ces derniers et bien d'autres de la même obédience, si je peux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et le mal est universel. Pour le moraliste, du même coup, celui du XVIIe ou celui du XXe, le déplacement, ne peut être l'occasion d'un dépaysement, le déplacement étant au contraire l'occasion d'une confirmation. Alors que, justement, le héros d'un roman d'initiation vit toutes les formes du dépaysement, dépaysement géographique, dépaysement social, dépaysement culturel, et qu'il en sort transformé, le héros d'un roman de confrontation détient ou croit détenir d'emblée le savoir, ce qui fait que pour cette famille d'esprit, ce que j'appelle les héros du roman de confrontation, le monde est sommé non de nous déconcerter, mais de répondre à notre attente. Alors, cette opposition, je fais une petite parenthèse, cette opposition entre roman d'initiation ou de formation et roman de confrontation, je l'emprunte à un article de Michel Tournier dans Le Vol du Vampire, article que j'avais trouvé très éclairant, ce qu'il appelle, enfin, les personnages qui, les héros des romans de confrontation, ce sont par exemple des personnages comme, Don Quichotte, de Cervantes. On pourrait citer aussi bien Pangloss dans Candide, c'est-à-dire tous ceux qui procèdent d'un savoir a priori et qui, en sorte, somment le monde de se conformer à une lecture a priori qu'ils en ont et une lecture a priori qui ne suppose pas d'être remise en cause. Et ça m'avait semblé assez éclairant pour toutes sortes de textes. Mais, comme vous le savez, il arrive que le monde ne réponde pas toujours à notre attente, ou qu'il ne donne pas toujours la réponse que l'on attendait. C'est une expérience quotidienne mortifiante, mais il faut bien la regarder en face. Du coup, comme le monde ne répond pas toujours comme il l'aurait fallu, du coup, celui qui croyait savoir, celui qui avait l'illusion du pouvoir, s'expose à cette dépossession qu'est le dépaysement, qui soudain le dépouille de tous ses alibis, de toutes ses croyances et donc de tous ses alibis. Et ce qui m'amène à ma troisième partie, je ne suis pas là où je croyais être. Alors, une telle dépossession peut relever, bien sûr, d'un déplacement dans l'espace, mais peu importe, et c'est rarement le cas. Une telle dépossession, au fond, ne relève pas d'un déplacement dans l'espace, mais avant tout d'un déplacement ou d'une modification de la focale, c'est-à-dire du regard que je porte sur le monde, de l'image que soudain je détecte derrière, c'est-à-dire de l'autre image que soudain j'aperçois derrière l'image première. Ou, si l'on préfère en rester à des métaphores spatiales, le dépaysement équivaut à un décentrement. Un décentrement un peu comme dans ces cartes, je ne sais pas, il aurait fallu, j'ai renoncé depuis longtemps à porter des illustrations et à PowerPoint et tout ça. Le dépaysement équivaut à un décentrement comme dans ces cartes qui, à l'encontre de nos usages, placent au centre, non le territoire métropolitain, Paris, au centre, mais un point géographique remarquable, l'un des pôles, ou bien proportionne les territoires à d'autres critères que la surface, la richesse par habitant, les ressources en eau, etc. Il s'agit bien toujours du monde tel que nous le connaissons, et pourtant nous peinons à le reconnaître du fait que le centre, quand il s'agit par exemple d'un pôle, ou l'échelle, en a été changée. Alors, les désemparés qui attendent tout de l'ailleurs ont l'impression de ne pas vivre où ils auraient dû être. À l'inverse, les dépaysés s'aperçoivent soudain qu'ils ne sont plus où ils croyaient, où ils le croyaient. Tel est bien, au plan collectif, ce qui est arrivé à l'homme occidental, lui qui s'était attribué la meilleure place au centre du cosmos et au sommet des espèces. Pour reprendre un propos fameux de Freud dans l'introduction à la psychanalyse, si l'on repense aux grandes blessures narcissiques qu'a subi l'humanité, ou plus exactement qu'a subi l'humanité occidentale, pas les autres, à savoir la révolution copernicienne, le bouleversement darwinien et l'invention de l'inconscient, on s'aperçoit que ces différents traumas collectifs consistent à chaque fois en un dépaysement suite à un décentrement. avec Copernic, celui qui se croyait au centre, se découvre en périphérie, avec Darwin, celui qui bénéficiait d'un statut d'exception, ou qui s'était plutôt attribué un statut d'exception, réintègre la loi commune de l'animalité, et avec l'inconscient, le maître du monde renonce à demeurer maître dans sa propre demeure. Exit, le cogito, est son impossibilité du dépaysement. Surtout si l'on s'en tient à la transcription assez libre que Lacan donne du cogito ergo sum, ubi cogito ibi sum, là où je pense, là je suis. Car dès lors que l'inconscient mène le jeu, je pense ou je ne suis pas, comme il disait, et du même coup, je suis ou je ne pense pas, comme il est écrit dans les écrits, si je peux dire. Bon. Là, donc, ce qu'on a appelé par commodité la crise de la conscience occidentale, je crois, procède très profondément de cette dépossession qu'est le dépaysement, vécu d'autant plus difficilement que nous eûmes longtemps l'impression d'occuper une place légitime. Mais par-delà les bouleversements historiques, la philosophie occidentale elle-même a ou avait depuis longtemps rompu le pacte qui légitimait notre place. Des penseurs classiques comme Descartes ou Spinoza peuvent s'opposer sur bien des points, mais tous deux finalement assignent à l'homme sa juste place au sein du réel. Au contraire, on le sait, les philosophies existentielles qui auront dominé le XXe siècle n'ont eu de cesse de remettre en cause la place de l'homme dans le monde devenu soudain problématique. Alors, pense à Kafka. Vous savez, lorsque dans la cathédrale, c'est pas un hasard, l'abbé raconte à K la fameuse parabole de l'homme de la campagne attendant sur le seuil sans oser le franchir. On pense évidemment à Camus dont on reparlera, où le moi se sent, je cite, « dépaysé comme jamais il ne l'avait été ». C'est quelque part dans le texte qui s'appelle « Entre oui et non » tiré de « L'envers et l'endroit ». On pense aussi, pour s'en tenir aux pages canoniques, on pense à au fameux épisode du Square dans la nausée, lorsque Roquentin découvre soudain que chaque figurant de cette scène est de trop, lorsqu'il regarde les racines d'un marronnier. Or, justement, alors que chez Barès, les racines assignaient à chacun un lieu, un pays, le dégoût que soudain suscite cette racine fait de Roquentin un déraciné, tout comme est déraciné le paysan de Kafka, l'homme de la campagne de Kafka. Alors, comme il n'est pas question ici de s'enfuir vers quelque ailleurs, le héros doit du coup affronter cette forme de dépaysement existentiel que constitue le silence du monde, c'est-à-dire son indifférence, fut-elle tendre comme chez Camus. Héritier dépossédé, chacun de ces personnages se découvre soudain dépourvu de titre de séjour, incapable de dire qui il est et où il se trouve, c'est-à-dire incapable de répondre, vous savez, aux questions que pose le grand veneur dans la modification. Alors, le dépaysement est donc l'apanage d'un univers du relatif, car dans un temps lointain, quand le monde était peuplé de certitudes, il n'y avait pas place pour lui. Dans l'univers mental des anciens temps, la rencontre de l'absolu pouvait susciter un foudroiement. Saul, sur le chemin de Damas, anéanti jusqu'à changer de nom. Mais le dépaysement consiste-t-il à dépouiller entièrement le vieil homme? Certainement pas. Certainement pas, du fait qu'il n'y a pour moi de dépaysement que dans la mesure où continue de coexister une altération et une permanence, c'est-à-dire une mémoire. Une altération et une permanence. C'est par là, dans le fond, c'est par cette coexistence problématique de ces deux pôles ou de ces deux termes que le dépaysement renvoie très profondément à cette autre aventure ou à cette aventure toute simple qu'est le fait d'exister. Vivre, en effet, c'est faire l'existence d'un dépaysement permanent. Mais faire cette expérience d'un dépaysement permanent nous contraint à un choix. De quelle nature ce dépaysement? Comment le vivre? Quelle couleur lui donner? et quel rôle lui attribuer. Il y a là un choix à opérer. On peut choisir, on peut opter pour le dépaysement mélancolique. Robinson à Londres, revenu à Londres, les images à Crusoe de Saint-Jean de Perse. Peut se complaire, c'est un peu la même chose, dans des fictions métaphysiques, l'histoire de la caverne, l'histoire de la chute dans la Genèse, pour qui le fait d'être, pour qui le fait d'advenir à l'existence, procède d'un déracinement originel, l'Éden perdu, et ainsi de suite. Oui, mais on peut rebondir. On peut aussi redonner à ce dépaysement ontologique toute sa positivité. On peut le constituer en premier auteur et voir de lui une invite à l'ouvert, pour reprendre le terme fameux de Rilke, Duino, en lui redonnant, et voir en lui, voir dans le dépaysement, dans le fond, une manière, et peut-être la seule, d'habiter le monde, ainsi qu'on le voit dans la très célèbre épitaphe de Martinus von Biberach, souvent cité, moi je l'emprunte ici à Clément Rosset, qui me permettra de terminer par les mots d'autrui. Martinus von Biberach ayant fait écrire sur sa tombe les vers suivants. Je viens, je ne sais d'où, je suis, je ne sais qui, je meurs, je ne sais quand, je vais, je ne sais où, je m'étonne d'être aussi joyeux. Voilà.